dilemme, le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous.
Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show.
Mais le plus important, c'est qu'il est bélier.
Dans l'épisode d'hier, je t'ai parlé que j'ai touché de près ou de loin au data forensics dans une ancienne vie. Et désolé, je ne connais pas le terme francophone pour ça. Peut-être que je devrais aller m'informer, mais je crois que c'est vraiment connu comme data forensics de toute façon. Parfois, la vie nous met des gens sur nos chemins et on ne sait pas trop comment. Fait que je vais t'expliquer un petit peu. 2008, j'ai une compagnie de récupération de données et les Chinois sortent un équipement quasiment expérimental, je dirais, pour faire des récupérations de données. Et j'ai été d'un premier acheteur. Je les ai achetés en pre-release. Donc, j'ai payé comme 2 000 $ US pour l'acheter. J'ai comme financé un petit peu leur projet et j'ai été d'un premier utilisateur à l'avoir. Quand je reçois ça, je branche ça et sincèrement, ça avait juste fait la job. Et c'était comme 8 fois moins cher que l'équipement russe qui était comme la top technologie à l'époque. J'avais pas de blog. Les réseaux sociaux en 2008 n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur un forum. Oui, à l'époque, les forums, c'était vraiment populaire. Forum de récupérateurs de données. J'écris mon article. Je dis « Wow, cette machine est juste magnifique. » En tout cas, j'écris un article, un long article, là, un bon 1 000 mots, là, une bonne description et tout, peut-être même 2 000 mots. Un article de blog, grosso modo, même que je mets sur un forum. Et là, ça attire plusieurs réactions. Les gens répondent, sont contents d'avoir un feedback. Même que, genre, je disais tellement que c'était bon qu'il y en a qui ont commencé à dire que j'étais comme de mise ou frauduleux, que c'était la compagnie qui faisait des faux reviews. J'avais trouvé ça très drôle, la théorie du complot, que mon témoignage était faux. Donc, j'avais mis mes coordonnées et j'ai dit « N'importe qui veut me parler, vous pensez que c'est pas vrai, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous jaser. » Et il y a un monsieur qui m'a appelé. S'appelait, c'est drôle parce que le monsieur est de descendance francophone, mais il habite en Floride. Ça, il y en a beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a une période qu'on connaît peut-être un peu moins, mais le début du siècle, les Canadiens français avaient beaucoup de misère à avoir du travail à Montréal. Ça n'allait pas bien. On avait une bonne expertise en construction. Donc, il y a beaucoup, toute la côte est américaine, surtout la Nouvelle-Angleterre, il y a beaucoup de non-francophones, des gens au début du siècle qui immigraient dans le fond aux États-Unis, qui étaient embauchés pour aller travailler là et qui ne revenaient jamais, qui allaient construire des églises, des bâtiments, des maisons là-bas. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui ont des noms francophones, surtout dans la Nouvelle-Angleterre, là, on va souvent entendre. Et ce qui est très drôle, c'est que ces gens-là portent un nom francophone, mais ne savent pas comment le prononcer. Fait que c'est toujours intéressant. Donc, le monsieur s'appelle Larry Letourneau, mais quand il appelle, il ne sait pas comment prononcer son nom, fait qu'il se présente comme étant Larry Letourneau. Letourneau, le clash était vraiment drôle. Et il m'appelle pour me parler de mon article de blog. Donc, je parle avec lui. On tombe dans une espèce de relation. Tu sais, aujourd'hui, ça serait par Messenger. Ça serait comme un chum que je parlerais sur Messenger une fois de temps en temps. Mais dans ce temps-là, on s'appelait par téléphone. Tu sais, il était peut-être un petit peu plus old-fashioned que moi. Et la technologie, les habitudes, on n'avait pas de téléphone intelligent. C'était d'autres choses. Fait qu'il m'appelait. Puis on se jasait, puis c'était vraiment drôle parce qu'il m'appelait out of nowhere. Une fois de temps en temps, le téléphone sonnait, je voyais le numéro de la Floride, je savais c'était lui. Puis là, je répondais, puis on jasait comme de tout et de rien. Et lui est un data forensics, puis je ne sais pas pourquoi, il voulait que j'embarque dans sa gang. Il voulait vraiment m'aider à aller plus loin dans le forensics, ce qui était quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais d'un moment de ma vie. Les circonstances n'étaient peut-être pas toutes là pour que je me concentre là-dessus. J'avais l'entreprise, j'avais mon lot de problèmes en arrière de la tête aussi. Et là, ben, un jour, pendant une conversation, il dit « Francis, il dit, faut que tu fasses quelque chose. » Il dit « Achète le livre « Hacking a Terror Network ». Tu vas voir, c'est écœurant. C'est fait comme un jeu, mais tu vas comme découvrir les techniques de forensics, puis c'est un livre d'enquête, puis dans le fond, c'est un livre que tu enquêtes un réseau terroriste qui veut comme, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire, là, j'ai aucune idée parce que je ne l'ai pas lu encore. Dans le fond, toi, ton but, c'est de démanteler le réseau, de trouver la clé avant qu'il le fasse. C'est comme une espèce de livre, jeu, enquête, soit le propre personnage, mais au travers de ça, tu as des logiciels et des fichiers encryptés. Dans le fond, c'est beaucoup de désencryption. Tu as beaucoup de fichiers et tu dois réussir à trouver le message avant qu'eux réussissent leur attaque terroriste. Je ne sais pas pourquoi, c'est un livre qui a été écrit en 2004. Larry m'a parlé de ça en 2008. Je l'ai acheté en 2008 et depuis ce temps, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais des livres que j'ai achetés que je n'ai pas pris le temps de lire, je peux en faire une bibliothèque pleine, mais je ne sais pas pourquoi, lui, je le garde toujours près de moi. Il est toujours dans mon tiroir. J'ai un classeur à côté de moi, là, puis j'ai deux livres dans ce tiroir-là. Un que j'ai lu, qui est le guide du travailleur autonome, puis j'ai Hacking a Terror Network. Fait que là, comme hier, je t'ai parlé un petit peu de Forensics, de Massman, que j'ai aimé ça aussi. Catherine m'a dit, t'as vraiment de l'air à aimer ça. Elle dit, ça va peut-être creuser un petit peu là-dessus. J'ai ressorti le livre, puis on dirait qu'il me parle tout le temps. Toutes les fois, j'ouvre mon tiroir, je le vois, puis je me dis, oh, un jour, je vais le lire, un jour, je vais le faire. Puis là, ben, je pense que c'est le temps que je mette un peu plus de temps là-dessus. Je veux mettre du temps là-dessus. En plus, je le regarde. C'est écrit gros. C'est pas un livre qui a 4000 pages. C'est sûr, il faut que tu fasses les exercices en même temps. Ça doit commencer à dater. C'est sûr que les techniques sont différentes, mais je crois quand même que des fois, de connaître ces vieilles techniques-là, ça t'aide à comprendre quand tu arrives avec des outils plus évolués. Moi, j'ai commencé à travailler en informatique, puis c'était du DOS qu'on faisait, puis de l'assembleur. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, je comprends beaucoup plus les interfaces graphiques, comment que ça s'imbrique par-dessus ces langages un peu plus bas niveau que, supposons, quelqu'un qui n'a jamais connu les lignes de commande. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.